a été déposée à l'ONU. Les pays, l'ensemble du monde, ont une responsabilité vis-à-vis du maintien de cette formule, un pays, deux systèmes. Alors, les Chinois, le Parti communiste chinois a dit ce mouvement a été organisé par les États-Unis, par des pays étrangers. L'Europe, voilà une occasion extraordinaire pour l'Europe. L'Europe n'a jamais été attaquée directement, mais elle peut se prononcer sur les valeurs qui sont défendues en cours. Il n'y a pas tellement d'endroits où on descend sans violence, parce qu'on est descendu sans violence, 2 millions de personnes sur 7 millions d'habitants, pour réclamer la démocratie. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup.
Jean-Philippe Béja, vous parliez de Taïwan à l'instant, et c'est vrai que Sonia, c'est un autre territoire en ce moment qui pose problème à Pékin.
Oui, l'île de Taïwan, donc 23 millions d'habitants, unique démocratie libérale du monde chinois, et qui entend bien le rester. Taïwan, où on observe avec beaucoup d'attention en ce moment les événements à Hong Kong. Quelques éléments de contexte historique. Taïwan a été gouverné par la Chine au 18e et au 19e siècle, puis cédé au Japon avant de revenir dans le giron chinois après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1949, l'île est devenue le refuge des dirigeants, des militaires, des civils qui ont réussi à fuir le régime communiste. Et depuis, donc, Taïwan cultive son indépendance administrative et politique. Mais pour Pékin, cette île-État n'est qu'une province rebelle qu'il faudra récupérer un jour, s'il le faut, par la force. Alors, ces relations complexes, tendues, sont devenues carrément glaciales avec l'arrivée, vous en avez parlé tout à l'heure, en 2016, de cette femme, une nouvelle présidente, qui refuse de reconnaître le principe selon lequel Taïwan ferait partie d'une Chine unique. Et la crise de Hong Kong n'arrange pas les choses. Taipei a apporté son soutien aux manifestants, ce qui a passablement irrité Pékin. Il y a quelques jours, la Chine décidait de suspendre la délivrance de laissez-passer aux touristes venus de Chine continentale qui souhaiteraient se rendre à Taïwan, un coup dur pour l'économie de Taïwan. Sans oublier donc dans ce dossier déjà compliqué la présence aussi des États-Unis, très engagés pour assurer la protection de Taïwan, comme le prouve début juillet de la signature d'un contrat de fourniture d'armes de plus de 2 milliards de dollars, hein, tout de même, par Washington à Taipei. Antoine Bondaz, pardon, est-ce que du point de vue de la Chine, les cas de Hong Kong et de Taipei sont similaires, sont liés?
Alors, ce n'est pas la même situation, puisqu'encore une fois, Taïwan a son propre gouvernement. Il y a une indépendance de fait de Taïwan. L'enjeu historique pour les autorités de Pékin, c'était de faire de Hong Kong un modèle pour ensuite Taïwan. Un pays de système devait in fine s'appliquer à Taïwan. Le principal problème, c'est que Pékin a réussi à empêcher une déclaration d'indépendance de Taïwan, notamment au milieu des années 2000, à travers un outil militaire, la dissuasion notamment, menacée d'une attaque s'il y a une déclaration d'indépendance, et l'outil économique, une interdépendance économique accrue. Ce que Pékin ne parvient pas à faire, et c'est le seul moyen de parvenir à cette réunification, ce serait de convaincre les Taïwanais de l'intérêt de cette réunification. Et là, il faudrait que le modèle chinois soit un modèle politique et un modèle sociétal attrayant. Et c'est de moins en moins le cas. Et c'est, entre guillemets, un des liens avec Hong Kong.
Oui, je voulais juste te dire que les forces qui, à Taïwan, sont favorables à de bonnes relations avec la Chine, sinon immédiatement à la réunification, c'est-à-dire le Parti nationaliste, ont été mises dans une position extrêmement difficile par les événements de Hong Kong. Car le dirigeant qui était le mieux placé pour gagner les élections présidentielles de janvier, Han Kuo-yu, qui était plutôt favorable au rapprochement avec la Chine, a été contraint de faire des déclarations de soutien à Hong Kong et a condamné une éventuelle répression opérée par la Chine à Hong Kong. Donc c'est aussi un des éléments que le Parti communiste chinois, en ce 70e anniversaire de la fondation de la République populaire, qui devrait être l'occasion du grand triomphe de Xi Jinping, doit prendre en compte. Et il ne faut pas mettre de côté cette idée que c'est très important que Xi Jinping se montre comme la personne qui a tout réussi. Donc, évidemment, il faut que ça finisse à Hong Kong, mais il ne faut pas que ça finisse dans le sang. Ce serait, bien sûr, en dernière analyse, s'il le faut, il le fera, mais ce serait quand même une tâche sur son image.
Guillaume. Marie-François Zanard, on a parlé depuis le début de l'émission, un état de système, c'est-à-dire Hong Kong redevient chinois, mais avec ses propres institutions. Est-ce que c'est ce modèle-là, un seul état et deux systèmes, qui est remis en cause, là, définitivement ?
Alors, ce qui est remis en cause, c'est d'une certaine façon, oui, c'est un état de système, mais les deux systèmes, c'était plutôt par opposition entre un système capitaliste, un système communiste. Là, c'est une atteinte à ce qui devrait être maintenu à Hong Kong sans discussion, c'est-à-dire la liberté d'expression, la démocratie. C'était pas de ce point de vue-là que le système était différent. Et ce que les Hongkongais veulent, c'est garder ce qui était leur caractéristique et on ne remette pas en cause ces caractéristiques. Et je trouve qu'il y a un certain paradoxe de voir à quel point Xi Jinping est attaché à l'unicité de la Chine, c'est une seule Chine, et donc tout faire pour finir par intégrer Hong Kong et Taïwan, et que sa politique est une politique de durcissement et de renforcement du poids du Parti communiste dans toutes les décisions qui sont prises en Chine, que cette politique-là est celle-là même qui va au contraire éloigner Taïwan et Hong Kong.